Radio 3D.
La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
La rediffusion.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de 3DFM pour notre 55e émission d'Attaque Pays d'Arles, un autre monde possible. Bonjour Laurane, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Voilà, on va parler finance et évasion fiscale aujourd'hui. Après le scandale de LuxLeaks, donc c'était le scandale financier du 5 novembre dernier révélant le contenu de centaines d'accords fiscaux préalables très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois, donc pour payer moins d'impôts, voici SwissLeaks, scandale révélant un système international de fraude fiscale mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse. La fraude fiscale le porte sur plus de 180 milliards d'euros et concerne 106 500 personnes, morales ou physiques, clients d'HSBC, dans 188 pays, le tout agrémenté d'un peu de blanchiment d'argent sale.
Et comme le scandale porte sur des documents volés entre novembre 2006 et mars 2007, soit 5 petits mois, il y a fort à parier que l'évasion concerne bien plus de monde et des montants autrement plus importants.
Et parmi les clients impliqués, aux côtés de Gad Elmaleh, souvent cité par les médias, se trouvent de sympathiques financiers du terrorisme, soutien d'Oussama Ben Laden, d'Al-Qaïda, et de nombreux responsables de trafic d'armes en Afrique.
Oui, on y retrouve aussi le nom d'un trafiquant d'armes notoire, vendeur de diamants et blanchisseur d'argent pour le compte du cartel colombien de Cienfuentes Villa, lui-même affilié au violent cartel mexicain de Sinaloa. Un gentil client fiché par les agences de sécurité américaines, belges et latino-américaines, incarcéré au Panama en 2002, mais relâché en 2004 grâce à des pots de vin virés à partir de son compte HSBC.
Oui. HSBC avait déjà été prise la main dans le sac en juillet 2012 par le Sénat américain, accusé pour quelques 28 000 transactions, je cite, d'avoir facilité des opérations de financement des milieux terroristes, d'avoir blanchi des profits tirés de trafic de drogue et d'avoir contrevenu aux sanctions américaines contre l'Iran. Bon, rien de grave, hein, tout s'est soldé par une amende de 1,9 milliard de dollars, mettant ainsi fin aux enquêtes menées par le Trésor, le département américain de la justice et des agences fédérales. On ne viole pas impunément la loi américaine.
HSBC est aussi poursuivi au Royaume-Uni pour vente abusive de produits d'assurance de prêt et par l'agence américaine de garantie des dépôts bancaires, avec d'autres banques, pour manipulation du LIBOR, ce taux de référence qui sert à la plupart des emprunts. La justice belge envisage de lancer un mandat d'arrêt international contre les dirigeants de HSBC, la fraude portant sur plus de 6,2 milliards d'euros, la Suisse refusant de lui prêter main forte et la direction de HSBC refusant de coopérer avec la justice belge.
Et il ne faudrait pas oublier les pressions exercées sur la presse britannique. De façon classique, les journaux The Guardian, fer de lance des révélations sur l'affaire SwissLeaks en Grande-Bretagne, et The Telegraph, qui avait publié les informations sur les comptes offshore de clients de HSBC à Jersey, ont vu supprimer leurs encarts publicitaires du groupe. De façon plus agressive, il a été ordonné aux journalistes de supprimer toutes les informations, tous les courriels, tous les articles en lien direct ou indirect avec HSBC. Ce qui vaudra à Peter O'Born, éditorialiste en chef du journal Daily Telegraph, de claquer la porte du journal, accusant la direction de tromperie envers les lecteurs et leur reprochant de céder au chantage financier de HSBC.
Mais HSBC, c'est quoi? C'est 60 millions de clients dans le monde. C'est une banque présente dans 84 pays et territoires. C'est plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une capitalisation de 138 milliards d'euros.
Et HSBC, comme son nom l'indique, ne l'indique pas, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, est un groupe bancaire international britannique.
Fondée à Hong Kong le 3 mars 1865 par l'Écossais Thomas Sutherland, la banque servait à l'origine à financer le commerce dans l'Extrême-Orient. Et, tiens, le trafic d'opium. Comme quoi, en 150 ans, ça n'a pas trop changé.
Oui, et pour une part moins exotique et revenons à nos moutons, si HSBC ou l'Union des banques suisses ont été prises la main dans le sac, les banques françaises participent elles aussi seraient mieux pleinement à ce jeu de l'évasion fiscale. 50 000 comptes secrets auraient été ouverts en Suisse par les résidents français, dont 6 000 comptes par la banque HSBC. Alors selon Hervé Falciani, donc c'est l'informaticien à l'origine des révélations de SwissLeaks, il y aurait 8231 comptes. On estime le montant de ces fonds cachés à 5,7 milliards d'euros.
Bercy a saisi la justice pour 62 cas, au motif que de nombreux délinquants ont régularisé leur situation. Bercy n'a donc récupéré que 300 millions d'euros de recettes fiscales en 4 ans de travail sur la liste.
En 2014, les banques ont été tenues de publier des informations concernant les activités de leurs filiales ainsi que leur chiffre d'affaires. Malgré des données ne reposant que sur une année et encore partielle, donc les bénéfices et les impôts versés ne sont pas encore publiés, on peut déjà d'ores et déjà trouver les 7 péchés paradisiaques des banques françaises sur le site d'Attaque France. Parmi ceux-ci, citons les 3 premiers. 1. Un tiers des filiales étrangères des 5 plus grandes banques françaises se trouvent dans des paradis fiscaux. 2. 26% du chiffre d'affaires international des grandes banques françaises est réalisé par les paradis fiscaux. Oui, dans les paradis fiscaux. 3. Dans les paradis fiscaux, les filiales sont essentiellement spécialisées en solutions de placement, financement structuré ou gestion d'actifs. Donc ce ne sont pas des banques de dépôt.
Et à ce propos, Attaque demande depuis plusieurs mois à BNP Paribas, requin de la finance 2014-2015, de fermer immédiatement ses filiales dans les paradis fiscaux, à commencer par les îles Caïmans, où elle détient pas moins de 15 sociétés. Et rappelons que BNP Paribas, championne dans ce sport, détient plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux.
Oui, on peut pas être mauvais partout. Les banques françaises sont des acteurs majeurs de l'industrie de l'évasion fiscale, l'une des activités les plus lucratives des banques. Plus poétiquement, ce n'est pas de la fraude ni de l'évitement d'impôts, mais de l'optimisation fiscale. On estime le manque à gagner au minimum à 60 milliards d'euros chaque année. Il s'agit du budget de l'État, nos écoles, nos routes, nos hôpitaux.
Du côté de la fiscalité, les grandes banques françaises ont payé un taux moyen d'imposition sur les bénéfices de 8%. Le taux officiel est de 33,5%, ce qui représente un manque à gagner pour l'État de 15 milliards d'euros au cours de la dernière décennie.
Oui. En attendant donc un FranceLeaks, le livre noir des banques publié par Attaque et Basta chez Les Liens qui Libèrent est sorti en librairie. Résultat de plusieurs mois d'enquête, donc chiffres et exemples à l'appui, il montre le coût des banques pour la société, retrace l'histoire de collusion et conflits d'intérêts assez incroyables, ainsi que la capture idéologique de responsables politiques et administratifs sous influence. La finance a bien un visage, celui d'une oligarchie bancaire, plus que grassement rémunérée, coupable d'un véritable hold-up planétaire.
Et on va faire un peu de pub, une fois n'est pas coutume. Si vous adhérez maintenant à Attaque France, vous pourrez profiter de l'offre spéciale, adhérer pour 35 euros et recevez un exemplaire du livre.
Oui, alors je vous renvoie à l'agenda militant d'Attaque Pays d'Arles. Parce que une autre banque est possible, nous vous invitons à un apéro nef le 17 mars, garanti sans paradis fiscal et sans placement financier. C'est gratuit et on aura quelques exemplaires du livre noir. Ah, ça, c'est à vendre.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en Jaguar. Et en matin, je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute,
avant de faire la culbute dans les poches de Lavillier, ouais. Mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica. Trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe. Je suis le dernier réflexe, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer, dans un coin sur la planète. Il y en a qui font une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné des dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Je vais vous faire maintenant, dans cette deuxième partie, la lecture d'un article du Canard Enchaîné de la semaine dernière. C'était en page 5 et le titre « Super usant ». Donc, depuis les lois Duflot du 24 mars, puis Pinel du 18 juin 2014, qui ont infligé un choc de simplification à l'attribution des surfaces commerciales, tout va mieux. Délais plus courts, contrôle renforcé, le résultat est bluffant. Ainsi, à Puyvert, dans le Vaucluse, un petit village de 763 habitants, au cœur du parc naturel régional du Luberon, le Super U local voulait, depuis 5 ans, tripler sa surface commerciale de 1779 m². Ce qui, en ajoutant les parkings, entraînerait la disparition de quelques 12 000 m² de terres agricoles. La mairie est enthousiaste, mais pas les commerçants, ni les associations de riverains, de protection de la nature, ni même les services de l'État. Et pourtant, le 21 janvier 2013, le supermarché obtient son extension auprès de la Commission départementale d'agrément commercial, la CDAC, seule instance habilitée à délivrer le précieux sésame. Les services de l'État et France Nature Environnement, Vaucluse, saisissent en appel la Commission nationale. 5 mois plus tard, l'autorisation d'extension est annulée. Fin de partie ? Non. Sans s'y aller, le gérant du dit Super U sollicite une nouvelle autorisation d'extension, vaguement modifiée, le 3 mars 2014. Refus. Il refait la demande illico le 12 mai, sans attendre le délai d'un an après le refus. Et ce, grâce à l'ajout d'un « drive » qui, selon la loi Duflot, requiert une autorisation spécifique. Rebelote, les services de l'État et France Nature Environnement Vaucluse font appel. Mais quelques jours avant que la commission étudie l'appel, en septembre, coup de théâtre. Le supermarché affirme renoncer à son extension. On bosse, on réunit les gens et tout ça pour rien, s'agace Nicole Bernard de FNE France Nature Environnement Vaucluse. Pas tout à fait. Grâce à la loi Pinel, plus besoin d'attendre un an pour solliciter de nouveau une autorisation d'extension. Les commissions n'ont pas fini de se réunir. De fait, le 2 décembre dernier, Super U redemande une autorisation d'extension et l'obtient. Les associations de riverains font appel, suivies par l'association des commerçants. Leur stratégie, c'est de nous épuiser pour qu'on les laisse tranquilles, soupire Nicole Bernard. C'est simple. Voilà, donc ça c'était la lecture de l'article, donc qu'est-ce que ça vous évoque ?
Oh, c'est vrai que ça épuise, c'est le pot de terre contre le pot de fer. On se retrouve avec une batterie d'avocats et juristes grassement rémunérés contre une poignée de riverains bénévoles.
Je suis sûrement un peu naïf, un peu ravi, mais il me semble qu'on ne devrait pas pouvoir faire passer un projet identique dont seul l'habillage change. On a un droit non contraignant.
On en avait un peu parlé lors de l'émission de janvier, mais moi ça me fait penser à l'ADER, l'association de défense de l'environnement rural, qui est située à Tarascon. L'ADER défend les terres fertiles, se bat contre les permis de construire illégaux dans le secteur de la Montagnette.
Oui, si Lader gagne ses procès au tribunal administratif, il se fait aussi beaucoup d'ennemis. On peut lire cette déclaration de Philippe Sansigo, le président de Lader, dans les colonnes du Ravi du 23 août 2012. Excellente lecture, abonnez-vous. Chaque année, 3000 hectares de terres agricoles disparaissent en PACA, dont plus de 1200 dans notre département. Tout simplement parce qu'en devenant constructibles, leur valeur est multipliée par 40, voire par 60. Sans parler des maires qui, s'ils ne construisent pas, n'ont pas l'impression d'exister.
Oui, il sait se faire des amis, effectivement. Le 25 avril 2012, donc Philippe Sansigo se retrouve convoqué pour plainte par les maires de Barbantane, Boulbon, Graveson, Saint-Étienne-du-Grès et Tarascon. Et vit son association, je les cite, hein, multiplie à outrance les recours contre les permis de construire délivrés par leur commune. Et en plus, comme ça ne suffit pas, sa femme est avocate, hein, donc elle se sert de l'association pour faire son beurre. Non mais, mais ça ne marche pas. Malgré la mise sous surveillance par la brigade financière pendant un an, le procureur a classé la plainte.
Ou non, ça ne marche pas. Après avoir remporté toutes les procédures administratives d'annulation de permis de construire, allant jusqu'à gagner un recours en Conseil d'État faisant jurisprudence, l'ADER ne lâche pas. Et comme le droit administratif ne contraint pas les maires à appliquer la loi pour détruire les hangars et maisons pourtant reconnues légales, l'ADER poursuit devant le tribunal de grande instance de Tarascon. Et là, ça ne rigole plus du tout.
Oui. Les quatre maires des communes de Tarascon, Barbantane, Boulbon et Graveson ont demandé par un courrier officiel au préfet de retirer son agrément à l'association. L'ADER n'en a par ailleurs été informé que par moyen détourné en novembre. Le dernier agrément de protection de l'environnement a été délivré par arrêté préfectoral le 21 juillet 2014 pour une durée de 5 ans. Sans agrément, difficile de mener une action environnementale en justice. Il faut montrer avoir subi un préjudice direct et personnel.
Il semblerait que l'ADER soit de nouveau poursuivi en justice en ce début d'année. Le préfet serait aussi poursuivi pour excès de pouvoir au tort d'avoir donné l'agrément à l'ADER. En 2012, Philippe Sansigo déclarait, donc je le cite, « Engager un recours contre un permis de construire va-t-il devenir un délit pénal ?» En 2015, il déclare, je le cite à nouveau, « Voilà pourquoi faire appliquer la sanction après annulation définitive d'un permis de construire est particulièrement difficile en France. »
Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous.
Alors, que nous prépare Attaque Pays d'Arles pour ce joli mois de mars ?
Alors, on va commencer par le jeudi 12 mars. Nous recevrons, avec et à l'initiative de Longomaille, Madame Swad Guenoun, architecte de formation, photographe renommée et membre d'Attaque Maroc, qui nous vient de Casablanca. Elle viendra nous présenter et nous parler de son reportage sur la résistance des femmes face aux dérives des microcrédits dans le sud marocain.
Oui, une projection débat sur les dérives des microcrédits, donc, jeudi 12 mars à 19h, à l'atrium de la Maison de la Vie Associative, en présence de la réalisatrice. Entrée libre et gratuite.
Oh, mais c'est la date de la plénière, notre réunion mensuelle d'attaque, entrée libre et gratuite aussi, venez nombreux.
Bien vu, bien vu. Alors la plénière sera très 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 écourtée. Elle aura lieu donc de 18h30 à 19h avant la projection, donc pour la gestion des affaires courantes.
Et donc, toujours le 12 mars, toujours à l'Atrium, toujours à la Maison de la Vie Associative.
Et ensuite ?
Alors ensuite, nous avons rendez-vous le mardi 17 mars à 19h. L'Atrium de la Maison de la Vie Associative pour un apéro nef. Cette rencontre organisée par Attaque Pays d'Arles et Pays d'Arles en transition a pour but de nous présenter une banque éthique et solidaire.
On peut venir à la réunion pour ouvrir un compte en banque chez eux ?
Alors non, ce n'est pas le but. Si on a invité le groupe local du Vaucluse de la Société Coopérative de Finances Solidaire, c'est pour qu'il vienne nous présenter la NEF, ses engagements, ses solutions, son avenir. Parce qu'une autre banque est possible. On ne fait pas de prosélytisme. Je vais arriver, le mot est compliqué. Prosélytisme.
Très bien dit.
Merci. Tu peux très bien rester dans ta banque, HSBC ou autre, hein, et lui demander d'adopter les principes de la NEF, par exemple.
Donc, apéro nef, ce sera le mardi 17 mars à 19h, toujours à l'Atrium, toujours à la Maison de la Vie Associative, entrée libre et gratuite. Il y aura quelques exemplaires du livre noir des banques et quelques brochures d'attaque sur la finance mises à disposition. Bien, ensuite.
Ensuite, nous inviterons Frédéric Bonneuil pour une conférence sur l'Anthropocène ou l'âge du poubellien. Donc ce sera le jeudi 16 avril pour notre campagne « Changeons le système, pas le climat ».
Attends, attends, donc ce sera comme d'habitude à 19h à l'Atrium de la Maison de la Vie Associative.
Alors presque, c'est tout pareil comme tu dis, hein, mais c'est à 20h.
Donc conférence sur l'Anthropocène avec Frédéric Bonneuil le jeudi 16 avril, 20h à l'Atrium de la Maison de la Vie Associative. Entrée libre et gratuite, et la suite en avril.
Eh bien non, donc ce n'est pas une devinette, vous aurez tous bien entendu reconnu l'ouverture de la chanson « Souvenir », le célèbre tube des années 80 du groupe orchestral « Manœuvre in the Dark », le reste n'est que publicité.
Eh bien, l'émission est terminée, elle sera rediffusée le jeudi 19 mars à 20h et disponible comme toujours en podcast sur le site de 3DFM. J'en profite pour faire un gros bisou à Jean-Luc, bon anniversaire mon grand.
Bon anniversaire Jean-Luc.
Bon anniversaire.
Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir, on se retrouve sur les ondes le mercredi 1er avril, c'est pas une blague, pour notre dernière émission d'Un autre monde est possible. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt!
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.